Chers amis, bienvenue à l'écoute de votre radio pour y passer quelques instants en compagnie de Saint François. Dans ses quêtes, une grosse épine le blessait. Il craignait de rencontrer sa mère. Tout, mais pas cela. Elle en souffrirait trop. Cette peine-là, il devait la lui épargner. Évidemment, elle savait tout. Mais qu'elle dût le voir de ses propres yeux. De grâce, Seigneur, pas cela. C'est pourquoi il ne passait jamais par la rue où elle demeurait. Mais un jour, que comme de coutume, il faisait sa tournée, une clameur éclata soudain dans une auberge. Son père bondit dans la rue et, avant que François pût rien dire ou faire, le père lui arracha le seau qu'il lança contre les pavés en hurlant « Infâme, je te maudis, je te maudis !» Cette malédiction frappa François au cœur comme la foudre. À cela, il ne s'était point attendu. « Non, non, ne me maudissez pas !» supplia-t-il en se tordant les bras. « Je te maudis !» répéta le père 5 ou 6 fois. Déjà, un attroupement s'était formé. Les femmes se signaient. François était pâle comme la mort. « Et pour chaque fois que tu recommenceras, je te maudis, chien !» cria encore le père avant de rentrer. Les gens blâmaient ouvertement cette violence et tentèrent de remonter le courage de François. Il était tellement abasourdi qu'il ramassa la nourriture mendiée, la remit dans le seau et s'en alla sans emporter le seau. Une petite vieille courut après lui pour le lui rapporter. Il s'enfuit hors ville, prit un chemin de traverse et s'assit tristement, la tête dans les mains. Être maudit. Cela éteignit d'un coup en lui toute lumière. Mais qu'y faire? Comment y remédier? Le lendemain, il avait trouvé. Quand il arriva avec son petit seau sur la place, il alla à la fontaine et s'adressa à un mendiant qui ressemblait à s'y méprendre à Saint-Pierre. La même barbe blanche en collier et une flamèche de cheveux sur son front chauve. Berthaud l'accompagna, car les mendiants s'entraident volontiers. François mendiait. Là-bas, son père accourait furieux. Mais quand il voulut recommencer ses malédictions, François alla se mettre à genoux devant Berthaud qui le bénissait. Et François criant « Pendant que vous me maudissez, un autre père me bénit. Ainsi, votre malédiction est annulée. » La foule cria « Bravo !» pour François et « Ouh !» pour le père. Le jour, des nuages sombres avaient roulé dans le ciel. Le petit curé, plein d'expérience et de raison, prononça « De la neige pour demain !» Le soir déjà, la neige se mit à tomber dru, et le lendemain, les montagnes et la vallée étaient de blanc vêtus. L'églisette en était emmitouflée. Il fallait renoncer à maçonner. Alors les deux hommes demeurèrent assis devant un petit feu de branches et prièrent dans l'attente du printemps. François ne travaillait qu'à son âme. Il lui arrivait de rester prosterné dans le froid, des heures durant, en prière, devant le Saint Crucifix, plein de soumission à Dieu et d'amour. Il visitait aussi les lépreux, les malades. Mendiait en compagnie de Berthaud. La moitié de sa ration allait à Berthaud et aux petits oiseaux. Il n'y avait presque plus personne qui le traitât encore de fou ou de nigaud. On s'était habitué aux mendiants. Jusqu'à oublier le riche seigneur qu'il avait été. François en conçut une profonde joie spirituelle. On lui donnait, parce qu'il grelottait de froid et que ses genoux calleux se voyaient par les trous de sa robe. On lui donnait par pitié, et surtout à cause de son inaltérable amabilité. Ses longs cheveux, sa barbe et ses bons yeux bruns, dont le visage pâle et émacié, donnaient à première vue envie de pleurer. Mais bientôt, on apercevait l'étrange et belle joie qui transparaissait sur tout son visage. Comme d'un seul mot, simple, il savait consoler et ramener la belle humeur. On eût dit que c'était lui le riche, et eux les pauvres. La neige rendait plus précis le détail des lointains. Des maisons qu'on apercevait à peine semblaient maintenant, pour ainsi dire, transparentes. Et ainsi, on voyait maintenant le petit clocher branlant de la chapelle Notre-Dame percé d'entre les arbres dans la chaînée de la portioncule. Encore une chapelle qui avait besoin du médecin. « J'irai la guérir au printemps, » dit François. Et puis, il y avait encore là-bas, dans la montagne, cette chapelle de Saint-Pierre qui réclamait son coup de main. « Allons, il y a du pain sur la planche, on y va !» Mais malgré son goût au travail, il était soucieux, estimant qu'il faisait si peu pour notre Seigneur. « Bâtir, ça vaut bien la peine. N'y a-t-il plus rien à faire dans votre jardin » demanda-t-il. « Ne suis-je pas trop jeune pour mener ici une vie si facile? Je fais du gâchis. Et vous qui êtes venu mourir pour nous, envoyez-moi chez les sauvages. Prenez mon sang. » Il tendait au ciel ses mains vides et demandait du travail plus dur. Ses mains, devenues grossières et obscures, comme celles des gens qui mangent en des écuelles de bois, ses mains jadis étincelantes de pierres précieuses. Tant qu'un signe ne lui était pas donné, il n'avait qu'à poursuivre son œuvre de maçon. Son attente allait au printemps et à sa mère. L'hiver était dur là-haut, dans la montagne. Mais chaque matin, avant qu'il fît clair, il se tenait prêt devant la porte de l'église. Et un jour, sous le porche, il rencontra sa mère. Il sortait de l'église, elle y entrait. Ils s'arrêtèrent l'un en face de l'autre. Il la reconnut. Son visage blanc sous ce manteau, elle ne dit pas un mot, comme foudroyée. Mais une main pâle sortie de ce manteau se posa sur la sienne. « Mon fils, je suis fière de toi. » Elle partit vivement, poussée, on le devinait, par la peur. Mais alors, ah, François fut si heureux de cette seule petite phrase qu'il courut en dansant à Saint-Damien. « Savoir quand tu mendies, quand tu as faim, savoir que l'âme de ta mère est avec toi, qu'elle te borde, te caresse, te donne du courage dans ta lutte pour imiter aussi intégralement que possible la vie de Jésus. « Maintenant, ta pauvreté est bénie, » lui dit le petit curé. À la chandeleur, la neige tombe sur une pierre chaude. À travers giboulée et temps sombre, le printemps s'insinua dans la contrée. Et, un soir de grand calme, le soleil se coucha dans un jardin de feu. « Cette fois, c'est le beau temps qui vient, » dit le curé. « Ne l'entends-tu pas, mes abeilles ?» Et le lendemain, le soleil était grand dans le ciel et tout commença de vivre. « Entends-tu couler les sources ?» Entends-tu roucouler les ramiers, siffler les merles? Vois-tu sautiller les petits lapins et briller les pâquerettes? En avant, à l'œuvre, nous pouvons recommencer à travailler, à mendier pierre et chaux. Berthaud pouvait désormais rester assis près de la fontaine. Sanctifié par la bénédiction de sa mère, François allait seul. Et son père avait le bon esprit de ne plus le regarder. C'était, somme toute, le meilleur parti à prendre. De nouveau, des brouettes s'en vinrent à Saint-Damien, naturellement par ordre du seigneur Bernard, tant que François eut bu trop de pierres et qu'il put bâtir pour son vieux maître un petit presbytère. Et vers la Pentecôte, il planta sur le faîte une croix, non sans en avoir d'abord béni la terre, traçant une croix vers les quatre points cardinaux. « Paix » cria-t-il, « paix !» Paix dans un monde de chrétiens où sévissaient tant de disputes et de guerres. Le jour de la Pentecôte, le curé célébra la messe dans la petite église restaurée, pleine de fidèles, et les larmes aux yeux, il fit un petit sermon très beau pour remercier le Saint-Esprit et son petit maçon. La même semaine, François commença la restauration de la chapelle de Saint-Pierre qui ne lui prit qu'un bon mois. Mais maintenant se présentait la grosse besogne, l'églisette de Notre-Dame-des-Anges, là-bas dans la chaînée de la Portioncule, à une lieue au moins dans la plaine. Il était allé d'abord l'examiner de près, comme un bon maçon qui vient voir le dimanche ce qu'il aura à faire en semaine. Vraiment, il y avait bien des choses à restaurer là. Il n'en finirait pas cette année. Ça ne fait rien. N'est-ce pas un bonheur de pouvoir travailler en l'honneur de la Vierge? Un travail pareil est une fête. Ah, elle était si bien située, l'églisette, dans cette petite clairière du bois, où le silence était si frais et si mystérieux, parmi le chant et le gazouillis des oiseaux, si loin du monde. C'est à n'en plus pour vouloir sortir, dit François. Et alors commença ce transport pénible vers la chaînée, des échelles, des cuveaux, de l'échafaudage, de la chaux, des pierres qui restaient, et par une chaleur qui chauffait l'air au point qu'on croyait respirer du feu. Mais François l'affronta. Et puis ce travail de maçon dans cette solitude était vraiment une chose délicieuse. Seul, dans le grand silence, dans l'ombre verte des arbres, sans être dérangé par personne. Parfois, pendant le travail, il se sentait inondé d'un sentiment de bonté et de beauté si indicible qu'il lui arrivait de descendre de l'échafaudage pour s'agenouiller dans l'herbe et, en larmes, adorer Dieu des heures durant. Il arrivait aussi que le soir, il ne rentrait pas au presbytère, mais qu'il s'attardait à prier dans le bois au clair de lune. Et puis il se couchait par terre, dans la chapelle ou à l'extérieur selon le temps, et dormait. L'été fut clair, l'automne aussi. L'incendie de son âme devint plus violent et aussi la question. S'il ne pouvait pas faire plus pour le bon Dieu que de bâtir. Sa vie heureuse le comblait de confusion, et dans ses prières, il sentait peu à peu qu'il se pourrait bien que l'ordre de la croix eût un autre sens. Quelque chose se passait en lui, de grand, de puissant. Qu'est-ce qui en naîtrait? Que devait-il faire? Il attendait, attentif. Dieu n'avait qu'à parler. Son serviteur était prêt, avec ses larmes et son sang. L'hiver vint tôt, et de nouveau à Saint-Damien, les deux amis étaient assis près du petit feu et priaient. Et quand survint le nouveau printemps, au travail. Pour ne pas perdre de temps, François resta dans le bois. Il y habita dans une cabane qu'il s'était construite lui-même, d'un peu de paille et de roseaux. Le dimanche seulement, il allait passer sa journée auprès du vieux curé, servir la messe et le salut. Comme il faisait beau dans ce bois. Les oiseaux apprennent à vous connaître, même les lapins et les écureuils. Ils ne s'enfuient plus quand ils vous voient. Ils viennent même écouter vos chansons. François chantait, mais son inquiétude grandissait dans le secret de son cœur. Ce n'était pas une angoisse, non, plutôt le pressentiment d'un grand bonheur. On ne sait encore quel sera ce bonheur, mais déjà il vous empêche de dormir. Le curé lui dit un jour, « J'ai l'impression que tu ne rebâtiras plus longtemps des églises. Je crois que Dieu a d'autres desseins sur toi. » Nous attendrons, répondit François. Bien parlé, approuva le vieillard. Nous attendrons. Quand ta chapelle sera-t-elle prête? J'aimerais bien que vous vinssiez y dire la première messe à la fête de Saint-Mathieu. Je viendrai, dit le curé. Et François servit la messe. Il y avait encore un assistant, un très vieux berger, tout courbé, qui, voilà bien des années, avait entendu là le chant des anges. François était nerveux et inquiet. Des nuages traversaient ses pensées. À l'évangile, le curé se tourna vers l'assistance, en réalité vers le seul berger, mais il regarda son servant, puis lut le texte sacré. François écouta avec respect ce texte qui était la parole de Dieu. Les nuages avaient disparu soudain. Une grande lumière vint sur lui. Et voyez donc comme le curé le regarde. Il ne l'a jamais regardé ainsi, d'un regard aigu et perçant. François est ravi en céleste extase en entendant les paroles par lesquelles Jésus envoya ses apôtres dans le monde. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. N'emportez ni or, ni monnaie d'argent ou de cuivre, ni besace pour la route, ni deux habits, ni chaussures, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans chaque ville ou bourg, où que vous arriviez, demandez ce dont vous avez besoin et demeurez où vous êtes entré. En entrant dans une maison, saluez en disant « Paix à cette maison ». Si cette maison est digne de la paix descendra sur elle. Sinon, elle descendra sur vous. Une averse de lumière l'immergea. Dieu avait parlé. Être apôtre, apôtre, répandre la paix et l'amour, restaurer des âmes tombées en ruine et être pauvre, entièrement pauvre comme un moineau. Paix, charité, pauvreté. Son maigre corps frissonna de joie céleste. Il a servi la messe de son mieux, mais après la messe, après, il a crié sa joie dans l'oreille du vieux curé. « Je ne comprenais pas, lui répondit ce dernier, pourquoi j'étais forcé de te regarder ainsi. J'étais saisi d'un étrange sentiment. Je te l'ai bien prédit que tu ne serais pas toujours maçon. Tu feras de beaux sermons, tu verras. » Et François, courant à sa cabane, en emporta les quelques sous qu'il possédait encore. Il choisit la bure la plus usée, de chemise il n'en avait point, et remplaça sa ceinture de cuir par une corde de maçon. Il se déchaussa, et, pieds nus, il se tenait debout, heureux, ivre de joie, sans souliers et sans chemise, vêtu seulement de sa bure. « Voilà mon plumage, dit-il. « Alouette du bon Dieu, murmura le vieillard, et il l'embrassa en pleurant. Et sur la grande place, ainsi il prêcha, pieds nus. Les gens sont suspendus à ses lèvres, et ce qu'il dit est simple comme du pain. Ce n'est pas tant sa parole qu'ils écoutent que la musique de son cœur. Bonnes gens, mais non, je vous appellerai mes frères, car Dieu est notre Père à tous. Vivons en paix, fraternels et joyeux de cœur comme des enfants. Nous sommes tous pétris de la même pâte, mais différemment cuit. Chacun a ses défauts, mais aussi son bon côté. À travers nos défauts, regardons Dieu, présent par la grâce en nos âmes, et nous nous aimerons les uns les autres malgré nos défauts. Aimez Dieu en vos frères. Dieu est infini. Il a fait les étoiles et le soleil, et nous avec. Nous vivons dans son souffle, nous nageons dans sa lumière. Il est au ciel, sur la terre et en tout lieu. Il est en nous avec son Esprit Saint, et au Saint-Sacrement, il se donne en nous avec la chair et le sang de son Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ, ah, qu'il est beau de vivre, car nous vivons en lui et par lui. Quand vous dormez, quand vous faites la soupe, quand vous raccommodez des sandales, il est toujours dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Alors, vous serez comme des enfants. Regardez les enfants, ils sont gais, ils n'ont pas le souci du lendemain. Ils voient des fleurs et ils crient de joie. De la neige et ils chantent. Ils lèvent leurs menottes vers le soleil et ils rient quand il pleut. Voilà comment vous devez agir. Vous réjouir, admirer. Et comme les enfants aiment leurs parents, ainsi nous devons aimer notre Père Céleste et nous confier en lui nuit et jour. Ne nous fâchons point si ce Père nous tense parfois. Il a ses raisons. Et qu'est-ce qu'un peu de souffrance en regard de l'éternité ? Aimez-le jour et nuit. Aimez-le dans ses instruments, dans la pluie, la neige, les étoiles et dans l'adversité. Aimez-le surtout dans sa douloureuse passion qui durera tant que le péché sera maître de l'homme. Allégez sa croix, sa souffrance en prenant une petite part sur vous. Faites pénitence. La pénitence est une médecine amère qui guérit l'âme et la rend claire et pure. Pour guérir vos maux d'estomac, vous absorbez les herbes les plus amères. Pour guérir vos âmes, n'en ferez-vous pas autant? Dieu demande des âmes claires. Seule une âme claire sait voir la clarté de l'œuvre de ses mains. Et alors, vous saurez louer et admirer. Aimez-le, vivez en paix avec lui, avec votre prochain, avec vous-même. La petite paix amène la grande. Nous avons perdu le paradis par le péché. Là-haut, il en est un nouveau, mille fois plus beau, le ciel. La Sainte Église vous en montre le chemin. Mais le chemin qui y conduit ne passe pas par le monde avec ses beaux habits, son or et sa gloire, mais par l'âme claire. Prenez ce chemin-là, c'est le chemin de l'amour. Notre-Dame et les anges vous attendent pour vous accompagner. Vivez comme des frères et comme des enfants. La paix soit avec vous, ainsi soit-il. Parcourut le pays avec ses sermons comme un chanteur des rues avec ses chansons. Chez les paysans, dans les champs, chez les bûcherons, dans les forêts, dans les métairies, sur la placette de quelque bourg, chez les lépreux, dans les impasses, sur la place du marché, sous le porche de l'église, avec le zèle d'une abeille. Toujours il parlait du même objet, de Jésus, de la pauvreté, de la bonté. Et toujours d'une manière nouvelle. C'était un délice de l'écouter. Il y en avait qui voulaient le charger de vivres ou lui tendaient de l'argent. Mais il refusait l'argent et des vivres il n'acceptait que le nécessaire pour un repas. Une assiette de soupe au lait, parfois une paire de tartines avec une petite tranche de fromage qu'il mangeait en chemin avec une gorgée d'eau du ruisseau. Il dormait ou le surprenait la nuit, dans une grange, une anfractuosité de rochers, ou à la belle étoile. Partout, on parlait de lui. On rappelait encore sa vie ancienne, ses débordements de jadis. Maintenant, il passait ses nuits dans les bois à prier, les bras levés. Les uns trouvaient sa conduite ridicule. D'autres la trouvaient belle, et chez les uns comme chez les autres, l'imagination y ajoutait. Tels prétendaient qu'il mangeait de l'herbe avec vers et fourmis, d'autres qu'il était un saint, et que le soir, une lueur auréolait sa tête. Un soir, comme il rentrait, las et fourbu, à Notre-Dame-des-Anges, un jeune homme l'attendait qui lui donna un billet avec les compliments de Messire Bernard. « J'irai ce soir même, » dit François. Il sentait que l'âme de Bernard était dans la peine. Il y alla, ils prirent ensemble un léger repas. Ce contraste, François avec sa bure crottée et ses mains de maçon, à cette table riche, dans cette belle chambre, et son hôte vêtu de soie et de velours. Messire Bernard était un homme grand et pâle, aux yeux bleu clair, point loquace, assez timide et doux de manière. Il s'informa par des questions qui n'en étaient point, comment François en était arrivé à embrasser cette vie de pauvreté. Vous voyez bien que son âme est en peine. François devina aussitôt qu'il fallait l'aider à faire un aveu ou à prendre une résolution. Et c'est pourquoi il lui conta sa vie. Il eut l'impression de tout revivre, et sa parole était si sincère et si enflammée que les larmes ne cessaient de mouiller les joues de Messire Bernard. Il se faisait tard, 1 heure du matin. François voulut retourner en forêt, mais Bernard insista tant pour le garder que François finit par céder. François dormit dans la même chambre que son hôte. Il y avait 2 lits dans cette chambre et une veilleuse brûlait devant un petit triptyque artistique. Bientôt, tous deux ronflèrent comme en mesure à qui mieux mieux. Et tous deux simulaient, car Bernard s'était promis d'observer les façons d'agir de François. Or, il s'était laissé dire que François se levait la nuit pour prier. Le ferait-il aussi cette fois? Messire Bernard souhaitait que ce fût vrai, non par simple curiosité, mais par un profond sentiment de vénération et pour encourager sa propre âme. Depuis longtemps, le désir grandissait en lui d'imiter la vie de François, mais il était prudent comme une colombe. Il fit donc semblant de dormir, tandis que par les fentes de ses paupières, il épiait son invité. Chez François aussi, ce ronflement était simulé. Il attendit jusqu'au moment où il crut Messire Bernard bien endormi, puis il se leva tout doucement, s'agenouilla devant son lit, les bras en croix, et murmura. « Mon Dieu est mon tout, mon Dieu est mon tout. » Il ne répétait que « Mon Dieu est mon tout » avec des pauses. Tantôt c'était un soupir, tantôt un cri de joie, puis de nouveau cela devenait suppliant ou anxieux. Tantôt il se couvrait la face de ses mains, tantôt il tendait de nouveau les bras, puis il s'inclinait comme replié sur lui-même, si beau. Si saint. Messire Bernard observait bien tout cela à la lueur de la veilleuse. Il en oublia de ronfler tant il était ému. La prière profonde se poursuivait toujours. Mon Dieu est mon tout. Et à la fin, Messire Bernard le répétait doucement pour lui-même. Quand vint l'aube, François se remit en hâte au lit. Un peu de temps après, les cloches sonnèrent. François et Messire Bernard firent semblant de s'éveiller. À peine Messire Bernard fut-il habillé, qu'il vint à François et lui dit « François, je voudrais bien mener la même vie que vous. Que me faut-il faire pour cela ?» François, surpris, exulta. « Ah, Messire Bernard, gloire à Dieu, gloire, gloire !» Il l'embrassa. « Est-ce moi qui dois décider cela, moi ? Non, non, je suis trop petit et la question est trop grande. Oh, que cela est beau ! Notre Seigneur doit nous aider. Allons à l'église. » Là, il distribue sa lumière. Oh, c'est beau, c'est beau! Vous auriez dû voir ces deux hommes aller à l'église, à tant le pas, courant à la fin. Ils entrèrent dans l'église Saint-Nicolas. Pietro, le vicaire, commençait sa messe à un autel latéral. Ils y assistèrent dans un recueillement profond. Et, aussitôt après la messe, François rejoignit le vicaire dans la sacristie. Il lui exposa le cas du Seigneur Bernard et le pria de lire pour lui l'Évangile. Qu'il est heureux, soupira le vicaire, et il accompagna François à l'autel où était resté le missel. François fit signe à Messire Bernard d'approcher, et il dit au vicaire, « Ouvrez 3 fois de suite le Saint-Livre en l'honneur de la Très-Sainte Trinité et lisez chaque fois un verset. » Le vicaire obéit. La première fois, il lut, « Si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Reviens. » Et suis-moi. La deuxième fois, n'emporte rien, ni bâton, ni besace, ni chaussures, ni argent. Et la troisième fois, comme un soupir, que celui qui veut venir après moi quitte sa maison, prenne sa croix et me suive. Les larmes du vicaire tombaient sur la page et il tremblait comme un roseau. Messire Bernard s'agenouilla en signe d'acceptation et alors le vicaire tomba à genoux lui aussi et dit à François avec des gestes suppliants « Moi aussi, moi aussi !» Cet événement fit beaucoup parler en ville et dans les environs. D'un seul coup, deux hommes respectés, un rentier et un prêtre, qui avaient embrassé le genre de vie de François. Ce qu'on se demandait le plus était « Que va faire messire Bernard de tout son argent ?» C'était le principal, cet argent. Le donnera-t-il à sa famille, à la ville, à l'église ? Il vendit ses biens, maison, terre, meubles, tout. Et cela fit une jolie somme. À quoi allait-il l'employer ? Tout assise fut sans dessus-dessous quand on apprit que le lendemain, sur la place Saint-Georges, messire Bernard distribuerait lui-même toute sa fortune aux pauvres. Les pauvres n'en purent dormir. Et la nuit déjà, il y en avait qui attendaient sur la placette. Ils avaient sorti leurs malades des lits et de l'hospice. Ils forcèrent tous les leurs d'y être, jeunes et vieux, et ils y portèrent ceux qui ne pouvaient marcher. Les petits bourgeois étaient jaloux. La haute bourgeoisie et la noblesse trouvaient que c'était trop fort. Au lieu d'employer cet argent aux bonnes œuvres, à la réfection de la chaussée, à l'église et à l'hospice, mais le donner aux pauvres, qui se hâteraient de le dépenser, c'était scandaleux. Riches et pauvres, jeunes et vieux, se pressaient sur la petite place Saint-Georges. Il fallut la police pour maintenir l'ordre. Les pauvres se tenaient au centre sur deux rangs et autour d'eux, la foule se poussait. Vers 3 heures, François déboucha sur la place avec messire Bernard et le vicaire. Aussitôt, les pauvres se mirent à crier. « Mon mari est sans travail depuis 3 ans, aveugle, paralytique, j'ai encore des enfants à la maison. » Ils exagéraient et mentaient, et cela faisait un tumulte à n'y plus rien entendre. La police avait besoin de toutes ses forces pour maintenir chacun à sa place. Les 3 hommes portaient chacun 2 grosses bourses d'argent. Messire Bernard commença la distribution, flanqué d'un garde-ville, et il donnait sans compter comme la monnaie lui venait dans la main. Le désir brillait dans les yeux des gueux et des richards. On pouvait compter sur les doigts ceux qui regardaient avec joie et désintéressement. Pendant que la distribution se faisait ici, là-bas les pauvres s'avançaient en désordre. Les lances les faisaient reculer. Pour empêcher qu'ils ne reçussent une deuxième fois, chacun était tenu de demeurer à la même place jusqu'à la fin du partage. L'argent chatouillait, et ceux qui en avaient reçu en comptaient et recomptaient les pièces. Pour en finir plus vite, François, avec le vicaire, distribuait de ce côté-ci. Et quand ce fut fini, il n'y eut plus, en moins de 5 minutes, un seul homme sur la place. Quand il n'y a plus d'argent, les voilà maintenant tous les 3 sans un sou. François emmena chez un fripier ses 2 compagnons qui y troquèrent leur habit contre une espèce de bure brune à capuchon comme emportaient les bergers dans la montagne. « J'en ai encore tout un choix, dit le vieux juif, toute mesure et défiant toute concurrence. » Après cela, les 3 s'en furent à Notre-Dame des Anges, 6 pieds nus au pas. Ce jour-là, boutiques et cabarets eurent une clientèle de grandes kermesses. Amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.